Et sur Radio Shalom, nous sommes avec Sylvain Attal. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors comme chaque semaine, nous allons tenter de comprendre comment va le monde. Et bien sûr ce soir, nous allons tenter de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Alors on ne sait pas encore qui sera le prochain président américain. Sylvain Attal, comment expliquer que cette élection ait été aussi serrée ?
Ça voulait dire serré par rapport à ce que pronostiquaient les sondages.
Bien évidemment.
Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que les sondages aux États-Unis sont extrêmement peu fiables. Ça, je le sais depuis très longtemps et par expérience. On le savait même il y a 4 ans. Et donc, moi, je ne prêtais pas beaucoup attention aux sondages. C'est la première chose. Ensuite, on avait un peu trop tendance à penser que Trump était un repoussoir. D'ailleurs, la campagne de Biden était tout entière tournée sur une seule chose, c'est-à-dire se dire qu'on va se débarrasser de Trump parce que c'était allé trop loin. Donc on pensait que pour les femmes, pour les jeunes, pour les pauvres, pour les intellectuels, disons en général, pour les minorités, c'était un repoussoir. C'est en partie vrai, mais en partie seulement. Regardez par exemple ce que disent les sondages de sortie des urnes. Quand même, 43% des électeurs de Trump sont des femmes. 35% sont des jeunes de moins de 30 ans. 42% sont des diplômés de l'enseignement supérieur. 42% gagnent moins de 50 000 $ par an. 23% disent que leur situation matérielle est pire aujourd'hui qu'il y a 4 ans. 23% des électeurs de Trump. 18% sont des hommes noirs. 8% des femmes noires. C'est-à-dire que Trump a obtenu 12% de l'électorat noir. Malgré la séquence de George Floyd, de Black Lives Matter, les autres noirs abattus par la police, c'est beaucoup plus qu'en 2016. 32% enfin sont latinos. En France, on a une vue complètement fausse du Trumpisme, qui réussit à plaire au-delà de sa base raciste, évangéliste, extrémiste. D'ailleurs, 33% des électeurs de Trump se déclaraient modérés. Et ça, je ne vois que 3 explications donc à ce scrutin qui sera de toute façon très serré. D'abord, premièrement, un rejet toujours massif des élites. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les démocraties, dans toutes les catégories de la population. Les démocrates, la gauche, vont devoir s'interroger là-dessus. Comment un milliardaire maniaque de Twitter a réussi à faire passer Biden pour le symbole de l'élite washingtonienne? Deuxièmement, Trump incarnait indiscutablement le leadership. Vous m'excuserez les anglicismes, mais enfin bon, un leader fort, courageux, qui défend l'Amérique, là où Biden apparaît faible, en un mot, qu'il a un look de loser. Troisièmement, l'économie, car malgré les dégâts du coronavirus, près de 8 électeurs de Trump sur 10 considéraient que la situation économique du pays était excellente, pas juste bonne, excellente. Bref, bon, ce soir, on voit que Biden est celui qui a le plus de chances de l'emporter, on reste prudent évidemment, mais enfin, c'est ce qui semble se dessiner, mais il est clair que sans l'épidémie de la Covid, il aurait très certainement perdu cette élection. Et cette fois, on ne peut pas invoquer une ingérence russe, on ne peut pas invoquer les réseaux sociaux, car il y a eu un bien meilleur autocontrôle de Facebook, de Twitter qu'il y a 4 ans.
Alors, Sylvain Attal, certains disent qu'un autre candidat démocrate, Bernie Sanders, notamment, aurait fait mieux. Est-ce que ça tient la route ?
Oui, j'entends ça en France, en tout cas. Bon, c'est sûr que Biden n'était pas un bon candidat. Il a très peu fait campagne, d'ailleurs, bon, à cause de l'épidémie, évidemment. Et il a eu toutes les peines du monde à exprimer un programme, même une idée forte dans cette campagne, à part, encore une fois, qu'il fallait se débarrasser de Trump. Il a réussi à capter que 8% des Américains qui avaient voté Trump en 2016. 8% seulement des électeurs de Trump en 2016 ont voté pour Biden. La participation, ensuite, cet argument, à mon avis, ne tient pas la route parce que on voit bien que la participation a été record. 2/3 de l'électorat américain s'est mobilisé. C'est un record absolu depuis un siècle. Donc, ça veut dire que l'électorat démocrate, comme d'ailleurs l'électorat républicain, se sont largement et parfaitement mobilisés. Donc, il est impossible de dire qu'un autre candidat démocrate aurait fait un meilleur score de Biden. Encore une fois, là, on peut dire que Biden a fait le job en tenant compte de la réalité et avec ses moyens.
En tout cas, le spectacle que donne l'une des plus grandes et des plus fières démocraties du monde est assez pathétique, non ?
Oui, ça, c'est assez lamentable. Trump s'est lancé dans une opération, il n'y a pas d'autre mot, hein, de suppression de la démocratie. Il n'y a pas d'autre moyen de le qualifier avec ses demandes pour arrêter de compter les voix là où il a le sentiment qu'il est en train de perdre. Et au contraire, de compter là où il a le sentiment qu'il a des chances de gagner. Mais il a réussi quand même à convaincre 80% de ses électeurs que le décompte des voix n'est pas sincère, qu'il y a des fraudes. C'est ça qui est incroyable, alors que toutes les chaînes d'information américaines que je regarde, même Fox News, font un effort pédagogique pour expliquer que non, ce ne sont pas des fraudes, ce ne sont pas des bulletins qui arrivent n'importe où, c'est que ce sont des bulletins qu'on est en train de compter. Donc, ça veut dire que ces électeurs de Trump, qui sont encore très nombreux, puisque de toute façon, ça va se jouer vraiment sur une lame de rasoir, ces électeurs n'ont plus confiance dans le système démocratique. Et on en revient à la question du rejet des élites, qui sont perçues comme voulant à tout prix conserver leur pouvoir et les avantages qui vont avec.
Alors, admettons que Joe Biden, Sylvain Attal, l'emporte. À quel changement faut-il s'attendre ? Alors, on va commencer d'abord par les États-Unis.
Oui, alors là, tout dépend du résultat de l'élection au Sénat. S'il reste aux mains des Républicains, ce qui est le plus vraisemblable, on peut redouter un blocage politique pendant au moins 2 ans, car oui, le Trumpisme va survivre à Trump pour toutes les raisons expliquées plus haut. C'est-à-dire que, alors d'abord, déjà, on commence à parler, je vois certains correspondants des chaînes américaines qui commencent à dire qu'une des portes de sortie pour Trump, ça pourrait être de se représenter dans 4 ans. Parce qu'il aura le droit de le faire, il n'aura fait qu'un seul mandat. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer visiblement dans la campagne de Trump. On se dit, bah, peut-être qu'on peut jouer une revanche dans 4 ans. Mais l'électorat conservateur, il est de plus en plus polarisé, et un candidat populiste, menteur, tricheur, réussit même à capter des voix de modérés. C'est parce que le monde est de plus en plus dangereux, que la violence en particulier raciale, fait toujours peur et de plus en plus peur aux Blancs, et même aux autres minorités, quand on voit le score de Trump qui est très honorable chez les Latinos, les Asiatiques. Ça, c'est la première option. Maintenant, si le Sénat bascule vers les démocrates, il y a peu de chances, mais ça peut se produire. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre vraiment à la question parce que, encore une fois, je n'ai pas vu de programme de Biden. Donc, on ne peut pas savoir, au fond, il n'a rien promis en termes programmatiques, en termes de réformes. Il a simplement promis qu'il allait battre Trump, à part unifier le pays. Mais alors, ce qu'il sous-tend, s'il veut unifier le pays, qu'il ne devrait pas entreprendre de réformes profondément clivantes, bah donc ça voudrait dire que, dans un cas comme dans l'autre, on a très grande chance d'avoir 2 ans, voire peut-être même 4 ans d'immobilisme.
Alors, voilà ce qu'il en est pour les États-Unis. En tout cas, des changements possibles si Biden veut l'État l'emporter. Alors, comment maintenant, dans le monde, ces changements vont s'opérer ? On va peut-être commencer par le Proche-Orient et Israël, bien sûr.
Bien sûr. Je ne vois pas Biden remettre en cause la politique de Trump, y compris ce qui a fait couler beaucoup d'encre, le déménagement de l'ambassade à Jérusalem. Je pense que c'est acquis maintenant. Je ne vois pas qu'il dispose du moindre levier pour convaincre aussi Israéliens et Palestiniens de reprendre les négociations. Notez d'ailleurs que plus de 3/4 de l'électorat juif, 77%, selon des sondages, encore une fois, sortis des urnes et avec toutes les précautions, mais enfin, ça donne quand même une idée, 77% de l'électorat juif a voté pour Biden. C'est un des meilleurs résultats pour les démocrates. Mais avec un bémol quand même. En Floride, un État qu'a conservé Trump, 58% seulement des Juifs ont voté démocrate. Les Juifs, c'est 9% de la population de la Floride. 41% ont voté pour Trump. Et ça se voit particulièrement dans le comté de Miami, où il y a une population juive très importante, dans lequel Biden a fait un moins bon score qu'Hillary Clinton il y a 4 ans. Donc, Biden a annoncé qu'il voulait, par exemple, réintégrer les accords de Paris sur le climat. Mais il n'a rien dit sur l'Iran. Donc, je ne vois pas, peut-être qu'il y aura un assouplissement du ton, peut-être qu'on va mettre la pédale douce sur cette histoire de sanctions, mais je ne vois guère de changement possible, une grande offensive diplomatique en direction de l'Iran. Sur la Chine, Biden conservera très certainement une attitude de fermeté dans les négociations commerciales, même si, il faut le rappeler, dans le passé, il a été plutôt naïf sur ce sujet. C'est certainement un moyen pour lui de reprendre contact, si c'est indispensable, avec les cols bleus, dont l'emploi est menacé par la concurrence chinoise, cols bleus qui sont cet électorat qui vote traditionnellement démocrate. On est entré dans une ère où partout, absolument partout, la tentation protectionniste va être de plus en plus forte. Pour l'Europe maintenant, on verra si Biden se lance dans une nouvelle politique transatlantique. Il y a beaucoup de sujets autour, effectivement, de l'avenir de l'OTAN. On peut espérer un rapprochement avec les Européens sur l'attitude vis-à-vis de la Russie, surtout de la Turquie. C'est pas sûr, on peut l'espérer, mais le réalisme risque de prendre le dessus et il est probable qu'il ne s'écarte pas beaucoup des alliances actuelles des États-Unis.
Allez, il nous reste 3 petites minutes, 2 questions. Ouais. L'une des leçons de cette élection, c'est le rejet des élites. Vous l'avez dit, une forme de résilience du populisme malgré les excès de Trump.
Oui, nous sommes très différents des Américains. Chez nous, on attend beaucoup de la protection de l'État. La gauche ça c'est sûr, elle le sait, n'apparaît plus ou pas comme pouvant défendre les intérêts des plus faibles. Elle doit procéder à un reset intellectuel et programmatique sur ce sujet. Emmanuel Macron est donc toujours la seule alternative chez nous face à Rassemblement National, mais avec le chamboulement de la Covid, qui a quand même été assez mal géré et anticipé en ce qui concerne la deuxième vague, les gilets jaunes, le terrorisme, le besoin de retrouver notre souveraineté dans toute une série de domaines, je pense que plus rien n'est impossible. La victoire de Macron est déjà le signe d'une volonté de balayer le système, mais si vous pensez à Marine Le Pen, même si elle a ouvertement soutenu Trump, il faut le dire, elle se présentera quand même pour la troisième fois en 2022. Je pense qu'elle est, d'une certaine façon, déjà assimilée un peu au système. Mais elle n'est pas la seule à vouloir incarner cette tentation populiste. Ce qui s'est passé, ou a failli se passer aux États-Unis, doit en tout cas nous alerter.
Sylvain Attal, merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Shalom et on vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour tenter de comprendre comment va le monde avec vous. Merci, bonsoir.
Merci, bonsoir.